Plume de Brigand, le rendez-vous livre jeunesse avec Lisa Bienvenue. Septième chronique de Plume de Brigand avec une rentrée scolaire tout en couleurs aujourd'hui. Et Lisa pour nous servir de belles manières, encore de belles découvertes. Bonjour Lisa.
Bonjour Patrice, bonjour à tous et ravi de vous retrouver après l'été.
Ben c'est un grand plaisir partagé puisque ben ça repart de plus belle avec toujours des livres aussi surprenants les uns que les autres. Et c'est pas celui-ci aujourd'hui qui va déroger à la règle, certainement
et
pas.
Non,
hein.
Surtout pas, certainement pas. C'est un livre qui s'appelle « Martha était là ». Paru au mois de mai 2016 aux éditions Les Fourmis Rouges, un livre d'un auteur qui s'appelle Attaque.
C'est une première d'avoir cet auteur dans Plume de Brigand ?
C'est une première sur cette antenne pour Plume de Brigand. C'est un artiste d'origine allemande qui est à la base assez éloigné en fait du monde de la littérature jeunesse, mais qui depuis quelque temps fait quelques incursions dans cet univers. Preuve que la littérature jeunesse, en fait, l'expression en fait de l'album et de l'image attire des artistes qui sont pas estampillés avec une étiquette sur la tête jeunesse. Ouais. Est-ce que je lis ?
Alors, l'idéal, c'est de lire avant d'en parler. Et puis ensuite, on échangera quelques réflexions.
Ouais. Voilà,
alors,
on va faire
faisons
ça.
Comme ça.
Martha était là. Une formation obscure apparaît dans le ciel. Peux-tu me voir ? Je suis la cinquième à droite, là, tout devant, dans la 23e rangée. Nous formons de gigantesques nuées d'oiseaux et nous survolons les immensités d'Amérique du Nord, à grande vitesse d'un endroit à l'autre, par-dessus les prairies, par-dessus les forêts. Telle une tempête, nous assombrissons le ciel, nous éclipsons le soleil, le fracas du tonnerre retentit dans l'air. Ce sont les vibrations de nos battements d'ailes qui ressemblent au vrombissement d'un moteur. On les entend à des dizaines de kilomètres. Comme des flocons de neige, nos fientes se déposent sur le sol par milliers. Les mouvements de notre vol, en perpétuelle recomposition, forment un élégant spectacle. En voyage, nous régnons sur le ciel. « Des tourterelles voyageuses !» s'exclament les hommes pleins de respect lorsqu'ils nous voient. N'y a-t-il pas là quelqu'un qui essaie de nous compter ? Pour chaque nuage d'oiseau, un point. Au bout de 20 minutes et de 163 points, il abandonne. Nous passons au-dessus de sa tête toute la journée sans nous arrêter, car nous sommes des milliers, des millions, des milliards. Nous sommes innombrables et nous avons besoin de nourriture, de beaucoup de nourriture. Nous survolons des terres arides jusqu'à ce que nos yeux aperçoivent des champs fertiles, plantés de blé et de riz pour assouvir notre faim. Puis voici des forêts qui se dessinent à l'horizon, avec des baies et des glands. Nous y faisons escale pour dormir et pour couver. Sur d'immenses étendues, tous les arbres sont tapissés de nos nids, logements fragiles cachés dans des branches. Parmi nos centaines de milliers de familles, l'ordre règne, uniquement troublé par nos bruissements d'ailes incessants. C'est un monde fait seulement de tourterelles. Nous voyageons et nous nous aimons avec de tendres becs. Un peintre immortalise nos jeux amoureux dans un dessin. Après l'amour, deux œufs seront pondus. Et deux oisillons en sortiront, un garçon et une fille. Mais avec le temps, les forêts infinies deviennent de plus en plus petites. La nature sauvage s'est transformée en champs cultivés. Au début, les récoltes sont maigres. Il y a trop de destruction et de dégâts. Parfois, ce sont les ouragans et les tempêtes de grêle. Parfois, les invasions de sauterelles. Mais parfois aussi, ce sont les tourterelles voyageuses. Les hommes ont faim et nous sommes comestibles. Ils nous tirent dessus et nous tombons par centaines. Nous assouvissons la faim des hommes. Nous assouvissons également leur désir de chasse sans limite. Je vois des scènes cruelles. On nous livre dans tous les marchés du pays, sur des charrettes, des bateaux, des trains. Des montagnes de tourterelles submergent les marchés. Nous devenons une marchandise sans valeur. Un centime par tourterelle. Nous sommes de moins en moins nombreuses. Quelques milliers, pas plus. Quelques centaines maintenant, trop peu pour nous défendre. Nous ne pouvons plus non plus lutter contre les autres dangers, les rapaces, le mauvais temps et les épidémies. Nos forêts de nids sont devenues silencieuses. Un chef indien réussit encore à trouver une colonie, cachée sur la rive d'un fleuve. Et un jour, un jeune garçon abat la dernière tourterelle qui vivait en liberté. Au zoo de Cincinnati, nous sommes trois. À côté des autres animaux comme les tigres, les flamands ou les éléphants. Puis je me retrouve toute seule. Chaque jour, des centaines d'humains viennent contempler ma cage. C'est un monde fait seulement d'humains. Soudain, on s'occupe de moi, on me traite affectueusement, ils m'ont donné le nom de l'épouse de leur premier président. À présent, je suis une célébrité, je m'appelle Martha. Je suis la dernière tourterelle voyageuse. Martha est morte le 1er septembre 1914 au zoo de Cincinnati. Empaillée, elle est aujourd'hui la propriété du Muséum d'histoire naturelle de Washington, D.C. Voilà l'histoire de Martha, la dernière tourterelle, qui est une histoire vraie. Alors forcément, là, c'est la tourterelle qui raconte l'histoire de son espèce. Donc c'est une manière de raconter un peu particulière. Mais voilà, la tourterelle Martha, la dernière tourterelle voyageuse existante, s'est réellement appelée Martha du nom de l'épouse du premier président des États-Unis. Donc voilà, ce livre...
Qui semble être une certaine... aventure de, enfin, une histoire autour des tourterelles, de leurs aventures, enfin, de leurs aventures, de, un peu de leurs conditions, mais une mécanique qui pourrait se décliner dans, avec peut-être d'autres animaux,
avec parce d'autres qu'on animaux,
on retrouve
oui,
toujours ce,
c'est complexe,
cette notion
hein.
de territoire
ouais.
Et des vases communicants.
Oui, territoire, le territoire de la nature et territoire de la culture, si, on, peut les, si on peut les opposer. Martha est morte. Un peu après en fait la révolution enfin le cœur de la révolution de la révolution industrielle qui est quand même une révolution donc ça veut dire que ça a révolutionné le monde, les manières de vivre, les comportements humains. On est en gros passé d'une société très agraire et très naturelle à une société beaucoup plus organisée, beaucoup plus industrialisée pour le confort matériel de l'homme. Donc en gros, pour résumer, l'homme a éradiqué la tourterelle pour son confort matériel. C'est un raccourci, mais c'est ça que ça veut dire. C'est extrêmement complexe. Donc nous adultes, hein, on en a plus ou moins conscience parce qu'on sait parfaitement que nos technologies d'aujourd'hui, notre mode de vie est aussi le résultat de cette révolution industrielle. Mais je pense que les enfants, ils vont voir dans ce livre en fait qu'une immense injustice, qu'on a détruit les tourterelles pour fabriquer d'autres choses. Donc, mais c'est complexe. Hein. Il y a une référence en exergue du livre à John James Audubon, Jean-Jacques Audubon, qui est à la base un ornithologue, peintre naturaliste français. Émigré aux États-Unis, qui a dessiné beaucoup d'animaux, dont les tourterelles, mais pour les dessiner, ben, il les abattait en fait. Sans se préoccuper de savoir si c'était la dernière, s'il y en avait beaucoup, donc c'est toujours compliqué. Donc voilà, il y a tout ça dans ce livre, il y a beaucoup d'influences, beaucoup de références historiques, scientifiques, artistiques qu'on sent. Voilà, on les connaît pas forcément parce qu'après dans le rythme du texte et dans les illustrations, on sent aussi toute la complexité en fait du livre, donc pas forcément besoin d'avoir toutes ces références pour ressentir toute cette ambiguïté parce que même le texte en fait que Martha dit en fait, il est étrangement plat en fait par rapport à cette histoire terrible. Il est pas plat au sens inintéressant, mais plat au sens volontairement distancé, alors qu'il dit des choses horribles en fait. Et même Martha, en fait, en parlant de son espèce, elle évoque aussi quelque part l'invasion quand elles sont très nombreuses, quand elles lâchent des fientes. On peut comprendre aussi l'agacement des humains, donc c'est extrêmement complexe.
Voilà, c'est un sujet qui peut aussi bien donner matière à réflexion, puis aussi à philosopher autour de la question de l'homme, des animaux, de la place prise sur etc.
Avec les complètement. Ouais. Et puis un univers, on n'a presque rien dit des illustrations, mais c'est un univers très très singulier avec des couleurs à la fois sombres et lumineuses. Et puis des expressions de personnages, enfin que ce soit des animaux ou des hommes qu'on voit de loin, qu'on perçoit de près, mais qui sont bien présentes. Et puis un pinceau, on sent le pinceau très épais, donc. Voilà, on sent que c'est un livre qui est ancré.
Ça, c'est le mot qu'on puisse dire. Hein,
oui, c'est pas léger.
Ouais, ouais. Et puis, il y a beaucoup d'encre.
Il y a beaucoup d'encre, voilà. Il y a
des couleurs,
il y a beaucoup de couleurs qui se superposent. Donc c'est...
Et puis, il n'y a pas forcément un ton alarmiste dans le dessin non plus.
Et non. Donc, c'est... Voilà.
Et bien, ça, c'est magnifique.
Martha était là, aux éditions Les Fourmis Rouges de Attac, sorti en mai 2016. Donc, il est encore très facilement trouvable partout.
Et bien entendu sur le site Plume de Brigand et sur radioroyant.fr pour retrouver tout en couleurs ce livre, enfin en tout cas quelques contours, des visuels et vous donner envie et bien de vous le procurer.
Voilà.
Merci beaucoup Lisa.
Merci Patrice, merci à tous.
À très bientôt.
À très bientôt.
Retrouvez Plume de Brigand sur notre site radioroyant.fr avec la présentation des livres par Lisa et sur le site plumedebrigand.fr. À bientôt pour de prochaines chroniques.